Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.
Salut tout le monde, bienvenue sur les internets. Alors aujourd'hui je suis, donc moi Guillaume Deloison, avec Armand Paris de la chaîne Sortir du Capitalisme, pour une émission donc à la fois sur ma chaîne et sur le blog, sur la radio de Radio Libertaire, pour l'émission Sortir du Capitalisme, pour une émission donc qu'on a intitulée Révolution contre Révolution et guerre de l'Algérie à l'Iran et de la Syrie au Yémen de 2011 à nos jours. Salut Armand.
Ouais, salut. Bah merci beaucoup de faire cette émission avec moi. Il semblait que voilà, maintenant ça fait quand même 8 ans que on est dans cette espèce de cycle révolutionnaire qui balaye toute la zone géographique dont tu viens de parler. Et en plus là, il semblerait qu'il y ait en plus un regain avec le soulèvement au Soudan en 2018 et puis surtout là cette année en Algérie, au Liban et en Irak, et puis en Iran, même si l'Iran ne fait pas vraiment partie du monde arabophone, donc c'est pas vraiment un printemps arabe, mais l'Iran, globalement, voilà, a une très forte implication dans le monde arabophone, il a des alliés dans la région, le Hezbollah, le régime de Bachar al-Assad, le gouvernement irakien peut se permettre de le rattacher.
Ouais, effectivement. Du coup, est-ce que tu pourrais préciser un peu plus, ça va être quoi le cadre de notre réflexion? Quelle région, un peu plus précisément, on va parler?
Là, on parle du coup d'une région voilà, qui est effectivement assez large, qui va du Maroc et de l'Algérie, disons du Maghreb, jusqu'à l'Iran, et de la Syrie jusqu'au Yémen. Même si on va pas parler ici directement des pays du Golfe, qui ont une structure un petit peu particulière et qui sont des pays assez peu propices aux luttes, étant donné qu'ils se basent essentiellement sur un prolétariat d'origine étrangère qui est complètement asservi et qui a vraiment peu de possibilités de s'exprimer politiquement, mais évidemment, ces pays du Golfe, ils jouent un rôle très important. Leur unité, elle tient pas tellement à des caractéristiques culturelles, linguistiques, comme on peut le supposer dans une certaine vision un peu orientaliste de ces pays. Alors certes, c'est tous des pays à majorité musulmane, et bon, pour tous les pays à part l'Iran, c'est des pays également à majorité arabophone. Mais leur véritable unité, elle est liée, à mon sens, à leur histoire et également au type de capitalisme et de régime politique qui les caractérise et qui les différencie du type de capitalisme et de régime politique qui existe, disons, en Europe de manière assez large. Et je dirais que la Turquie est un petit peu singulière, on peut la rattacher ou on peut ne pas la rattacher à cet ensemble de pays, mais bon, la Turquie est quand même assez différente. Alors, c'est quoi les caractéristiques, du coup, communes de ces pays? Et en fait, c'est ces caractéristiques communes, en fait, qui expliquent le fait que eh bien, la révolte, depuis 2011, s'est répandue comme une traînée de poudre dans ces pays. Alors, tous ces pays, ils ont une histoire commune qui a été que ce sont tous des ex-territoires coloniaux d'empires européens, ou alors ils ont été colonisés de manière un petit peu plus informelle, sous la forme de protectorat. Mais globalement, voilà, c'est que des pays qui sont tombés à un moment sous la dépendance des empires européens. Et c'est important parce que, en fait, c'est des pays dans lesquels le capitalisme ne s'est pas développé de manière endogène, entre guillemets, par le produit des dynamiques sociales, économiques, politiques, comme par exemple en Angleterre. Donc là-dessus, je renvoie à une émission de Sortir du capitalisme qu'on avait consacrée à l'émergence du capitalisme en Angleterre. C'est pas non plus des pays, à part un petit peu l'Iran à un moment, et quelques pays l'ont tenté, mais je vais y revenir dessus, qui ont réussi, disons, face à la menace coloniale, à se dire on va adopter le modèle économique occidental, puisque c'est ce qui lui donne sa puissance militaire, commerciale, etc. Et donc, d'une certaine manière, on va opérer une espèce de modernisation de rattrapage capitaliste.
L'unité de ce bloc, c'est vraiment cette histoire politique de modernisation de rattrapage, c'est ça ?
Alors, l'unité de ce bloc, c'est compliqué parce que tous ces pays n'ont pas vraiment tenté de modernisation de rattrapage. Il y a des cas assez différents. On va dire que, pour ce qui est des caractéristiques générales, ce sont des pays qui ont été colonisés ou semi-colonisés et qui, en dehors de la question de la rente pétrolière, qui est une question très importante et qui fait que, du coup, ces pays se différencient en termes de richesse. Mais ce sont des pays qui, même lorsqu'ils bénéficient de la rente pétrolière, ne sont pas, disons, des sociétés capitalistes qui fonctionnent comme voilà, le capitalisme occidental, sur un vaste marché intérieur, des industries compétitives, une capacité à exporter des produits industriels à l'étranger, à vendre des produits à haute valeur ajoutée technologique. Tous ces pays, globalement, sont des capitalismes qui, en raison de leur histoire coloniale ou semi-coloniale et de l'échec des modernisations de rattrapage lorsqu'elles ont été tentées, parfois elles n'ont même pas été tentées, se retrouvent dans une situation qui explique les révoltes actuelles. Donc, pour faire bref, c'est un chômage extrêmement important des jeunes parce que, en fait, l'économie capitaliste offre très peu d'emplois, à part dans les secteurs rentiers type pétrole, bâtiment, tourisme, voilà, il y a très peu d'emplois. Et d'autre part, il y a l'État. Mais en dehors de ça, quasiment pas d'industrie, à part dans quelques endroits précis de cette zone, mais l'industrie est sous-développée. Et ça, c'est effectivement une caractéristique souvent de capitalisme sous-développé. Il y a une très forte dépendance aux importations. Il y a un faible marché intérieur parce que bon, bah, les gens ne trouvent pas d'emploi, donc forcément, ils ne peuvent pas consommer, etc., etc. Donc, bon, disons qu'il y a le chômage des jeunes, un chômage plus général. Il y a une économie vraiment duelle dans le sens où, d'un côté, on a les gens qui captent une partie de la rente pétrolière lorsqu'il y en a, ou de la rente touristique, ou de la rente liée à l'argent envoyé par la diaspora, c'est le cas au Liban par exemple, ou bon voilà, qui sont actifs dans les quelques secteurs qui sont liés au capitalisme transnational, type les banques, etc. Eux donc, ils ont pas mal d'argent, voilà, c'est disons la bourgeoisie locale et la classe moyenne supérieure. Et d'un autre côté, on a le reste de la population qui soit au mieux est fonctionnaire, mal payé, mais bon, qui est au moins un emploi, ou qui est dans l'économie informelle et qui jongle entre voilà, les petits boulots, la précarité, le chômage, et puis bon, éventuellement, voilà, il y a quelques ouvriers par-ci par-là, notamment en Égypte, en Tunisie, mais bon, c'est quand même une classe ouvrière très très faible dans ces pays. Et donc, c'est principalement cette partie-là de la population dont j'ai parlé, c'est-à-dire des jeunes précarisés dans l'économie informelle, qui vont se révolter à partir de 2011 contre des conditions d'existence qui sont tout simplement plus supportables. Et donc ça va être la première composante centrale de ce mouvement. La deuxième composante centrale de ce mouvement, eh bien, c'est les classes moyennes qui, elles, veulent un capitalisme pleinement développé, où ils ont des meilleurs emplois, de meilleures opportunités pour leurs enfants, etc., etc. Et voilà, finalement, en fait, on peut dire, pour résumer, que depuis 2011, toutes ces révoltes sont des révoltes contre un capitalisme sous-développé et le régime, le type de régime qui y est associé, qui est à la fois le type de régime qui renforce ce sous-développement du capitalisme, mais qui en même temps est une conséquence de ce sous-développement capitaliste.
Ok, du coup, l'unité de ce bloc, elle se retrouve dans une certaine configuration des conflits sociaux, du coup. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple avec un pays, avec du coup des faits concrets qui se sont passés
Ouais, bien sûr. Bah, alors, je pense qu'on peut prendre l'exemple de l'Égypte. Donc, en Égypte, à partir de 2011, il y a eu le fameux printemps arabe qui liait plusieurs composantes. Il y avait la composante de la classe moyenne qui, elle, attendait avant tout des réformes de type politique, c'est-à-dire la fin de la corruption, un régime démocratique parlementaire, etc., etc., et qui aspirait d'une certaine manière à une forme de démocratie bourgeoise telle qu'on la trouve en Europe, et qui contestait un régime qui, aux yeux des classes moyennes, ne leur offrait pas assez d'opportunités en termes d'emploi, de consommation, etc., et surtout de liberté politique. Une autre composante, donc, c'est le prolétariat des rues, précarisé, etc., etc., qui, eux, avaient plutôt des demandes plus basiques en termes d'emploi, de meilleurs salaires, de maintien des subventions, des revendications de survie immédiate. Et en général, c'est cette portion-là de la population, comme en Irak en 2018-2019, et partout ailleurs d'ailleurs, qui a tendance à constituer le nerf des émeutes. Voilà. Donc les émeutes, c'est plutôt cette partie-là de la population qui a des revendications plutôt socio-économiques, en tout cas au début, alors que la classe moyenne, elle, est beaucoup moins émeutière et plutôt sur un mode d'aller manifester sur des places, de faire des grandes manifestations. Donc par exemple, il y a la place Tahrir en Égypte qui est bien connue, mais aussi la place Tahrir en Irak qui, depuis 2018, est un petit peu le lieu de rassemblement de la classe moyenne qui demande des réformes politiques. Et puis après, dans le cas de l'Égypte ou de la Tunisie, il y a un troisième larron, entre guillemets, qui est le prolétariat ouvrier et qui, en général, a aussi des revendications plutôt socio-économiques, mais qui a déjà un emploi et qui demande plutôt une revalorisation des salaires et parfois le licenciement du patron lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique. Donc, en fait, ce qui unit tous ces segments de population en Égypte en 2011, c'est le rejet d'un régime qu'on peut qualifier de néo-patrimonial. C'est l'expression donc de Gilbert Achkar, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la question des printemps arabes. C'est-à-dire un régime où, en gros, l'essentiel de la bourgeoisie tire ses revenus de liens particulièrement étroit avec l'État. Donc, toute une classe capitaliste qui fait de l'argent parce qu'en fait, elle est très proche du président, de l'armée, des hauts fonctionnaires, des hauts dignitaires du parti en place. Et donc, elle va s'approprier tous les marchés publics, elle va faire de l'argent avec l'import-export, et elle va fonctionner, comme le dit très bien Théorie communiste dans son numéro 24, elle va essayer de faire fonctionner tout le capitalisme sur un mode rentier, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin, entre guillemets, comme souvent dans le capitalisme, de se battre sur un marché avec une compétition où il faut quand même sans arrêt améliorer sa productivité, être compétitif, etc. etc. Bon, ce qu'on nous répète à tire-larigot. Mais il va y avoir dans ces pays-là, la bourgeoisie veut simplement ramasser de l'argent sur un mode automatique, et elle le fait par ses liens privilégiés avec l'État. Et le problème, c'est que du coup, ça frustre tous les autres. C'est-à-dire que les capitalistes qui ne sont pas proches de l'État, eh ben, du coup, ils n'ont jamais de marché public, ils n'ont pas d'aide au développement de leurs industries, etc., etc. Les classes moyennes, ça les frustre parce que du coup, y a peu de création d'emplois, il y a peu de dynamisme du capitalisme local. Et puis, évidemment, les prolétaires, ils subissent les conséquences de ce type de développement capitaliste qui est particulièrement pauvre en emploi et également en salaire. Et donc, il y a une unité qui s'est faite en 2011 contre ce régime néo-patrimonial et ce capitalisme qu'on peut appeler globalement de connivence. C'est-à-dire un capitalisme qui est très lié à l'élite du pouvoir étatique. Voilà, ces trois composantes du mouvement se sont révoltées ensemble en 2011. Et ce qui s'est passé, comme l'expliquent Bruno Astarian et Robert Ferraud dans leur feuilleton Ménage à trois qu'on trouve sur leur site Xalta, c'est que en Égypte, il y a eu l'arrivée au pouvoir des frères musulmans en 2011, et surtout en 2012, avec l'élection de Mohamed Morsi à la présidence. Et Mohamed Morsi, évidemment, il n'y a pas vraiment eu de changement en termes de politique économique, c'est toujours une forme de capitalisme sous-développé, néolibéral, extrêmement dépendant des institutions financières internationales comme le FMI. Et donc, en fait, il y a eu, donc, contre les frères musulmans, une alliance, encore une fois, de ces trois composantes pour faire une sorte de deuxième révolution. Sauf que les militaires, qui, eux, avaient peur de perdre le pouvoir, parce que le cœur du pouvoir, vraiment, en Égypte, c'était les militaires. C'est pas Moubarak. Moubarak, c'est pour ça qu'il a été remplacé aussi vite. Tout comme Bouteflika a été remplacé très rapidement en Algérie, et tout comme, c'est un petit peu différent, mais Ben Ali a été remplacé relativement rapidement en Tunisie. C'est parce que le cœur du pouvoir, ce n'est pas le président. Et donc l'armée a eu peur de perdre le pouvoir avec les frères musulmans, qui étaient un peu les seuls qui pouvaient vraiment les évincer du pouvoir. Il a eu peur de subir ce que Erdogan a fait subir aux militaires, parce que les militaires en Turquie ont été au pouvoir très longtemps, dès la fondation de la République turque dans les années 20, et ils se sont fait renverser du pouvoir de manière fracassante par Erdogan avec des arrestations. Il y en a qui ont fini en prison, donc il y a un peu une espèce de traumatisme. L'armée égyptienne voulait éviter ça. Donc elle a favorisé cette espèce de seconde révolution et a profité de la mobilisation populaire contre les frères musulmans qui s'étaient rendus très impopulaires par à la fois leurs mesures néolibérales, mais aussi par leurs mesures réactionnaires de type fondamentaliste islamique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'armée s'est présentée en sauveuse de la révolution, mais en même temps en tant que restauratrice de l'ordre capitaliste. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la belle alliance du prolétariat, des classes moyennes et du prolétariat ouvrier, différencier le prolétariat urbain et le prolétariat ouvrier, s'est cassée lorsque l'armée, ayant chassé les frères musulmans, a récupéré le pouvoir et a dit « Bon, maintenant, c'est fini, on remet l'économie en ordre de marche », puisque l'économie égyptienne était très perturbée depuis 2011. Donc, la classe moyenne a, d'une certaine manière, abandonné ses revendications politiques au nom d'un retour à l'ordre capitaliste, puisqu'il y avait énormément de grèves, d'émeutes, etc., etc. Et donc finalement, la belle unité interclassiste s'est retournée contre le prolétariat ouvrier et le prolétariat urbain, qui ont été réprimés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on voit comment est-ce que finalement, derrière l'unanimisme réel de tous ces mouvements de révolte au début, à un moment, alors souvent, c'est assez avancé dans le processus révolutionnaire, c'est pour ça que c'est arrivé quasiment qu'en Égypte, la classe moyenne est susceptible de se retourner contre le prolétariat pour simplement maintenir le statu quo et arriver à un retour à l'ordre de la société capitaliste existante, quitte à abandonner ses revendications politiques.
Et du coup, tu disais que dans une alliance interclassiste, la classe moyenne du coup avait renforcé le statu quo. Je me demandais, est-ce que il y aurait dans cette région aussi des exemples peut-être inverses où ça pourrait être le prolétariat qui aurait renforcé le statu quo alors qu'on enfin face à par exemple des aspirations beaucoup plus révolutionnaires.
Je pense que, une partie du prolétariat est toujours susceptible d'être utilisée comme milice contre-révolutionnaire. Est-ce que c'est encore des prolétaires quand on fait partie d'une milice armée c'est une véritable question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui. Est-ce que le flic de base est un prolétaire ?
Après ça, il y a aussi une problématique compliquée avec justement les conflits armés qu'il y a dans la zone et qui, pour certaines personnes, du coup, se retrouvent dans des situations complètement extravagantes à a tiré sur le groupe auquel on appartenait quelques semaines auparavant. Enfin, y a...
Ouais, bien sûr. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que on va dire que dans le cadre du mouvement révolutionnaire initial, c'est peu le cas. En fait, c'est simplement si la dynamique révolutionnaire prend un tournant contre-révolutionnaire, et encore plus si ça prend le tournant d'une guerre ou d'une guerre civile. Souvent, depuis 2011, on a vu que des guerres et des guerres civiles en même temps, puisque il y a toujours eu des interventions impérialistes étrangères. Les impérialismes, en l'occurrence, étant pas tellement les impérialismes occidentaux, bon, même si évidemment l'impérialisme saoudien, et puis la Turquie, bon voilà, quand même, qui fait partie de l'OTAN, mais beaucoup l'impérialisme iranien, hein, qui a joué un rôle contre-révolutionnaire déterminant depuis 2011. Donc là, c'est sûr qu'effectivement, sous la forme des milices, certains prolétaires ont été enrôlés au service de la contre-révolution, que ce soit dans le cas de prolétaires alaouites, mais pas que, hein, qui ont été enrôlés massivement dans les milices de Bachar al-Assad pour réprimer l'insurrection syrienne à partir de 2011, que ce soit les Irakiens chiites qui ont été enrôlés pour partie, hein, dans les milices pro-iraniennes qui sont intervenues à la fois pour réprimer les révoltes en Irak depuis quelques années et en même temps pour écraser dans le sang la révolution syrienne. Donc oui, à partir du moment où il y a vraiment eu une vague contre-révolutionnaire, et surtout quand il y a eu des guerres, là effectivement une partie du prolétariat a pu se retrouver enrôlée au service de la contre-révolution, mais bon, pas vraiment en tant que classe, entre guillemets, là on rentre déjà dans une dimension plus géopolitique, quoi.
Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur la place que peut prendre l'impérialisme dans ce conflit ? Parce qu'effectivement, tu as parlé de l'impérialisme iranien, mais étant donné que c'est une région en fait où il y a une longue histoire d'impérialisme avec le colonialisme, etc. Du coup, à quelle place prennent les pays étrangers dans ce conflit? Et bon, j'imagine qu'évidemment, ils doivent prendre une place importante en ce qui concerne du coup le renforcement et le maintien du statu quo et de la hiérarchie.
Alors, c'est vraiment une question vraiment importante, la question de l'impérialisme, parce que je pense qu'à gauche, depuis 2011, on a entendu beaucoup de bêtises par rapport à ça. Une certaine gauche, notamment, a adopté une position contre-révolutionnaire vis-à-vis des soulèvements dans cette région depuis 2011, en les voyant comme des soulèvements provoqués par la CIA. Alors, c'est doublement faux, parce que, à la fois, bon, évidemment, les États-Unis n'ont pas orchestré ces mouvements de révolte, ce sont des mouvements de révolte authentiques, populaires, d'en bas, massifs, qui n'ont certainement pas été provoqués par une puissance impérialiste, hein. D'ailleurs, là, on pourrait en profiter pour rappeler à quel point est-ce que la critique du conspirationnisme ne vise pas que le conspirationnisme des adversaires d'un régime ou d'un type de société, mais le conspirationnisme a beaucoup été dans cette région une arme de l'État depuis 2011. À peu près tous les régimes ont déclaré que c'était un complot de l'Occident, des sionistes. Le président du Yémen a déclaré que c'était un complot américain et juif basé à Tel Aviv. Bachar al-Assad a déclaré que c'était un complot aussi occidentalo-sioniste. En Iran, on a eu le même discours au sujet de la révolte récente écrasée dans le sang. Donc voilà, il y a tout un discours. Et la gauche est parfois tombée dans cette vision à partir d'une mauvaise conception de l'impérialisme, puisque la gauche ne concevait comme impérialiste que les États-Unis et l'Occident. Alors que je pense que si on prend une définition minimale de l'impérialisme vu comme une politique étrangère agressive de défense de ses intérêts géopolitiques, économiques, etc., par un État, hein, l'impérialisme un petit peu consubstantiel à l'État, dès qu'il en a les moyens du moins, en réalité, les principaux impérialismes dans la région depuis 2011, ça n'a pas été les États-Unis. ça a plutôt été l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Iran. Je dirais que c'est un petit peu les trois principaux. Et l'erreur qu'on a fait par rapport à l'impérialisme occidental, c'est de croire que les Occidentaux souhaitaient un renversement de tous les régimes qui ne leur étaient pas favorables. Et là-dessus, on a beaucoup extrapolé à partir du cas libyen. C'est vrai que dans le cas de la Libye, il y a eu donc un soulèvement populaire contre le régime de Kadhafi. Kadhafi a voulu le réprimer dans le sang. Et au moment où il s'apprêtait à faire un bain de sang dans la ville de Benghazi, donc la deuxième plus grande ville du pays, il y a eu une intervention de l'OTAN. Et cette intervention, qui au départ était que humanitaire, en fait, est devenue une intervention en fait, pour renverser Kadhafi. Donc effectivement, là, on a un cas effectivement où effectivement il y a l'OTAN participe directement au renversement d'un régime en place. Et après, une partie de la gauche, voilà, considère que c'était une mauvaise chose. Bon, ce qui est un petit peu compliqué effectivement, la situation de la Syrie, de la Libye depuis lors est pas glorieuse, mais on peut pas dire que sous Kadhafi elle l'était beaucoup plus. On a beaucoup exagéré les réalisations de Kadhafi. En réalité, c'était un pays, par rapport aux richesses pétrolières qu'il a dans le sol, qui n'était pas si exceptionnel que ça. Kadhafi avait lui-même sa propre politique impérialiste en Afrique. Enfin, et puis, voilà, surtout, c'était une dictature totalitaire hein, qui avait duré quand même plus de 40 ans. Donc, à partir de ça, la gauche a analysé tous les printemps arabes comme la répétition de ce scénario libyen. En réalité, les États-Unis étaient plutôt favorable à un statu quo, parce qu'il faut savoir que depuis que Obama est arrivé au pouvoir, et ça continue sous Trump, même si c'est sous d'autres modalités, l'impérialisme états-unien est en train de se retirer progressivement de la région, et en train de sortir de cette espèce d'hyper-impérialisme voilà, de post-guerre froide, qui avait mené donc à l'aventure, enfin aux invasions de. Aux aventures impérialistes, entre guillemets, de 2001 et de 2003 en Afghanistan et en Irak, et qui ont été des échecs lamentables. Puisque, bon, l'Irak, finalement, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est plus proche de l'Iran qu'il ne l'a jamais été. Bon, finalement, ça a coûté énormément d'argent pour, finalement, peu de rentrées pour les États-Unis. Donc, voilà, l'Irak, ça a été un échec. L'Afghanistan, ça a été un échec. Donc, voilà, il y a un retrait progressivement des États-Unis de cette région. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'ils voudraient juste que ce soit le chaos à feu et à sang, puisque de toute façon, ça ne les intéresse plus, en réalité, les États-Unis étaient plutôt pour un maintien du statu quo. Et c'est pour ça qu'ils ont poussé, paradoxalement, à ce que l'armée éjecte Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte, parce que ça permettait finalement un petit changement cosmétique, voilà, on change le visage du président, mais en réalité, le système reste le même, c'est-à-dire un capitalisme, voilà, de connivence néolibérale, voilà, qui est relativement favorable aux États-Unis, qui veulent continuer évidemment de faire des affaires avec ces pays, donc ils n'ont pas intérêt à ce que ce soit à feu et à sang, surtout l'Égypte avec le canal de Suez. Et puis on a beaucoup glosé sur les subventions à des associations pro-démocratie des États-Unis en Égypte. Mais il faut savoir que la principale entité qui est subventionnée dans la région, à part Israël, c'est l'armée égyptienne. Donc, évidemment, les États-Unis ne voulaient pas renverser le pouvoir de l'armée égyptienne qu'elle finance à hauteur de plusieurs milliards chaque année. Et en réalité, ça c'est quelque chose qui est souvent méconnu, mais en réalité, très peu de puissances impérialistes voulaient le renversement de Bachar el-Assad en 2011. Très peu. À peu près tout le monde avait des bonnes relations avec Bachar el-Assad. Ce qui n'était pas le cas de Kadhafi, qui avait un peu des mauvaises relations avec tout le monde, parce qu'il avait une politique étrangère un peu erratique. Les impérialismes régionaux, la Turquie, l'Arabie Saoudite, ou même internationaux comme les États-Unis, en fait, étaient favorables à un maintien de Bachar el-Assad. Simplement, ils voulaient qu'ils fassent comme les autres, c'est-à-dire des petits changements cosmétiques, des petites réformes politiques, histoire de faire semblant quand même d'être ouvert vis-à-vis de l'opposition voilà, de faire des petites mesures démocratiques. Et le problème, en fait, c'est que Bachar el-Assad a refusé, non seulement refusé ces petites réformettes cosmétiques, mais en plus s'est rapproché énormément de l'Iran pour écraser l'insurrection populaire dans le sang. Et là, du coup, à partir du moment où Bachar basculait clairement dans le camp de l'impérialisme iranien, eh ben, tous les ennemis de l'impérialisme iranien, là, se sont mis, évidemment, progressivement, hein, à s'opposer au régime de Bachar al-Assad, non pas pour opérer un démantèlement du régime, hein, puisque les États-Unis se sont même rendu compte qu'en Irak, ça n'avait pas été une si bonne idée que ça pour la stabilité des investissements états-uniens d'avoir démantelé l'État irakien de Saddam Hussein. Mais voilà, ils voulaient simplement pousser par le financement de certains groupes de l'opposition armée, c'est-à-dire souvent les plus réactionnaires, les plus islamistes, etc., etc. Tous ces impérialismes ont voulu pousser Bachar al-Assad à enfin céder, à faire des réformes cosmétiques et à s'éloigner un petit peu de l'Iran. Bon, ce qui n'a pas marché, mais finalement, ça n'a pas marché, malgré tout, tous ces pays sont en train tranquillement de reprendre des relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, quand bien même il aurait fait des centaines de milliers de morts depuis 2011. Donc finalement, la place des impérialismes dans tout ça, c'est que les impérialismes n'ont, en dehors du cas libyen, jamais pris le parti des populations insurgées, jamais, à part donc le cas libyen. Au plus, l'impérialisme américain a poussé à des changements, à des réformes cosmétiques, des changements de président, pour changer un peu la marionnette, bon, même si évidemment ces présidents avaient un pouvoir réel, mais disons que l'État profond et la bourgeoisie n'ont pas été inquiétés dans leurs intérêts. Et puis, souvent, certains impérialismes ont joué un rôle clairement contre-révolutionnaire. Donc, c'est le cas de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du soulèvement au Yémen. Bon, même si le Yémen, maintenant, c'est compliqué de parler de soulèvement parce que c'est devenu une guerre civile. Hein, mais bon, l'Arabie Saoudite, clairement, joue un rôle contre-révolutionnaire là-dedans, puisque c'est elle qui a permis à l'ancien président dictateur du Yémen de se maintenir en place après 2011. Bon, finalement, celui-ci s'est retourné contre les Saoudiens en s'alliant avec les milices houthistes qui sont elles-mêmes financées et armées par l'impérialisme iranien. Donc, bon, l'Arabie Saoudite a un rôle plutôt contre-révolutionnaire. L'Arabie Saoudite a énormément favorisé, dans le cadre de l'opposition syrienne, les groupes islamistes radicaux qui voulaient certes renverser Bachar al-Assad, mais enfin surtout créer un État islamique. Après, il y a évidemment l'Iran qui a joué un rôle contre-révolutionnaire à peu près partout, au Yémen, où les houthistes se sont alliés avec l'ancien dictateur du Yémen, au Liban, où le Hezbollah est le principal adversaire, hein, il faut bien le dire, du mouvement actuel contre le maintien du système confessionaliste bourgeois, peut-être on pourra y revenir. Et puis, évidemment, voilà, l'Iran a joué un rôle extrêmement contre-révolutionnaire en Syrie. Sans l'Iran, hein, le régime de Bachar al-Assad ne serait probablement pas debout aujourd'hui. Il a joué également un rôle contre-révolutionnaire dans la répression de toutes les révoltes en Irak depuis 2011, parce qu'il y a eu aussi un printemps irakien, mais qui a été réprimé dans le sang. Donc, globalement, on peut dire que oui, l'impérialisme a joué un rôle très important, surtout dans le cas de la Syrie, dans toute la séquence depuis 2011 dans la région dont on est en train de parler, mais c'est à peu près toujours avec un rôle contre-révolutionnaire en dehors du cas de la Libye. Après, il y a certains pays où l'impérialisme n'a joué aucun rôle, par exemple le cas de l'Algérie, hein. En Algérie, il n'y a pas d'impérialisme étranger qui cherche ne serait-ce qu'à intervenir dans le soulèvement en cours.
Ok, est-ce que du coup tu nous parlais de l'interprétation d'une certaine gauche par rapport à la place de l'impérialisme, est-ce que dans cette même logique tu aurais en tête des mésinterprétations classiques qu'on peut entendre à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, donc sur cette région du monde, des erreurs qui seraient récurrentes dans la façon de lire les événements récent?
Je pense qu'il y a plusieurs erreurs majeures. Alors, je vais commencer par le premier, qui est le confessionnalisme, c'est-à-dire la lecture de ce qui se passe depuis 2011 en termes d'affrontements confessionnels. Donc, on a parfois entendu que la révolte en Syrie, c'était un soulèvement sunnite contre une dictature alaouite, alors qu'en réalité, il y a une partie des sunnites qui soutiennent le régime, notamment la bourgeoisie, et une partie des classes moyennes de Damas et d'Alep. Il y a aussi des alaouites qui ont participé aux manifestations en 2011, et les alaouites, certes, une partie d'entre eux sont favorisés lorsqu'ils ont des liens avec Bachar al-Assad ou ils ont effectivement des meilleurs postes, etc., etc. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'alaouites qui sont dans une situation économique et sociale très mauvaise. Donc, voilà, c'est la lecture confessionnelle, à mon avis, là-dessus, elle marche pas vraiment. Et donc, ça, c'est une erreur qui a souvent été faite. Même si, évidemment, hein, il ne s'agit pas de dire que les identités ethniques ou confessionnelles ne jouent pas de rôle. Elles jouent assurément un rôle, mais elles jouent un rôle en contexte, parce qu'elles sont prises dans des dynamiques politiques, économiques, sociales, géopolitiques, qui les dépassent largement. Après, je dirais que dans le même esprit, il y a eu tendance à concevoir les gens comme un bloc, soit confessionnel, soit ethnique. Donc, par exemple, on a eu tendance à parler des Kurdes de Syrie, comme s'il s'agissait d'une espèce d'entité complètement homogénéisée, héréifiée et unitaire. Ce qui a fait que on a pris le PYD, donc qui est la force dominante dans le Kurdistan syrien depuis 2011, comme le représentant du peuple kurde, alors qu'il y a une partie des Kurdes qui se sont opposés à la politique du PYD, la politique du PYD étant globalement de ne pas participer à l'insurrection contre Bachar al-Assad au profit de la construction d'une autonomie qui, d'ailleurs, a souvent été romantisée. Ça a d'ailleurs été une troisième erreur à mon avis de l'extrême gauche, c'est sa lecture de ce qui se passe au Rojava. Donc il y a évidemment, ça c'est commun avec tout le reste du champ politique, une lecture à mon avis occidentalo-centrée, dans le sens où les Kurdes ils ont l'air un petit peu plus comme nous, les femmes sont cheveux au vent, c'est pas des islamistes, etc. Donc bon, finalement ils nous ressemblent, donc on peut s'intéresser à eux. Il y a également une lecture donc occidentalo-centrée aussi par rapport aux questions antiterroristes, parce que finalement les Kurdes du PYD, hein, le PYD s'est affronté à Daesh et pas au régime. Mais pour les occidentaux, la plus principale menace c'est Daesh, c'est pas les régimes. Même si le régime a fait 95% des morts civiles en Syrie depuis 2011, les Occidentaux, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est que Daesh peut tuer des gens en France. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette fascination, à mon avis, pour le PYD. Et puis, outre le fait qu'on a ressuscité, de manière complètement artificielle, le clivage fasciste-antifasciste, le PYD... antifasciste, c'est un petit peu compliqué de le dire, parce qu'effectivement Daesh peut avoir certaines caractéristiques du fascisme, mais je pense qu'on peut vraiment pas l'interpréter en termes de fascisme, ça me paraît pas très rigoureux. Mais surtout le PYD a quand même passé des accords divers et variés avec le régime, que lui on peut qualifier quasiment de fasciste, à mon avis de manière plus convaincante que Daesh. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que ça a été une grosse erreur. Je pense que dans l'extrême gauche, je verrais donc deux types d'erreurs principales. C'est une lecture occidentalo-centrée, donc en termes de anti-impérialisme, vraiment bêta sous, en gros on s'oppose, on voit la main des impérialismes, de nos impérialismes partout, donc finalement on en vient à soutenir les impérialismes qui sont ennemis de nos propres impérialismes, donc on en vient tacitement à soutenir l'impérialisme iranien, l'écrasement de la révolution en Syrie, etc., etc., à travers toute une lecture conspirationniste, et dans ce même ordre d'idées, donc ce que j'ai déjà dit sur une lecture un petit peu de les Kurdes nous ressemblent, etc., etc. Et puis la deuxième erreur, ça a été le fantasme du Rojava. Alors, là-dessus, hein, on a déjà consacré plusieurs émissions dans certains du capitalisme, mais pour dire très clairement les choses, ce qui se passe au Rojava, c'est assez simple, c'est il y a quelques coopératives agricoles qui sont effectivement autogérés sous forme de PME, mais les SCOP, ça existe aussi en France. Et après, sinon, le reste de l'économie est soit aux mains de l'État, donc sur un mode assez classique dans ces régions, c'est-à-dire que l'État contrôle les secteurs clés de l'économie, et à côté, on a des trafiquants capitalistes qui contrôlent le reste de l'économie, notamment le commerce et tout ce qui est le secteur économique extra-étatique. Des trafiquants capitalistes qu'on peut qualifier un petit peu de capitalistes de connivence, même s'ils ne sont pas tous proches du PYD. Donc finalement, en termes de structure sociale, il n'y a pas eu de changement. Il y a toujours des classes, il y a toujours du capitalisme, il y a toujours même la forme dominante dans cette région de capitalisme. Donc là-dessus, pas trop de transformation. Et puis après, à un niveau politique, certes, il y a un petit peu plus de démocratie locale pour des affaires très quotidiennes. Certes, effectivement, il y a une promotion des femmes dans l'administration, mais en dehors de ça, c'est un État, si vous préférez, une structure politico-militaire centralisée avec un gouvernement, un exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. L'essentiel des décisions étant prises par le commandement central du PKK, même pas du PYD, hein, du PKK. Donc, en termes de démocratie, il n'y a pas eu énormément... d'avancer. Donc, je pense que on peut dire que c'est un petit peu ces choses-là qu'on peut reprocher à la lecture de la gauche et de l'extrême gauche depuis 2011, qui sont malheureusement des travers qui datent déjà des années 60-70. On avait déjà l'exotisation des guérillas en Amérique du Sud et le romantisme révolutionnaire qui s'accompagnait. On avait déjà une lecture conspirationniste, déjà une lecture campiste aussi, où on choisit le camp d'un impérialisme contre un autre, avec cette logique stupide de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et voilà, et du coup, la seule chose qui a changé, c'est une vision, islamophobe, dans le sens où finalement, les seuls acteurs auxquels on pouvait s'identifier, c'était là où il n'y avait pas de femmes voilées et d'arabes sunnites, donc les Kurdes. Et puis, d'autre part, une lecture sécuritaire nous, le régime, il massacre plein de gens. Ça ne nous intéresse pas tant que ça. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est que Daesh soit chassé, même si finalement, Daesh a fait beaucoup moins de morts en Syrie que le régime, infiniment moins.
Ok, et du coup, du côté de l'extrême droite, qu'est-ce qu'on a comme interprétation foireuse récurrente?
Alors, l'extrême droite, je dirais que c'est assez simple. En tout cas, je vais parler pour l'extrême droite, on va dire, soralienne. L'extrême droite soralienne, elle a choisi son camp depuis très longtemps. C'est-à-dire que elle a le même discours que Bachar al-Assad, l'Iran, etc. C'est-à-dire la lutte contre l'empire américano-sioniste, donc avec un bon gros relent d'antisémitisme. Et donc, elle a soutenu le régime de Bachar al-Assad, massivement, il y a eu un gros soutien de l'extrême droite et même des rouges bruns, par exemple comme Annie Lacroix-Ri, qui ont soutenu le régime syrien. Je ne veux pas dire, mais même à gauche, il y a eu parfois des choses un peu ambiguës du côté de la France insoumise, chez Mélenchon, etc., etc. D'où le fait que toute cette gauche s'est ralliée aux Kurdes, parce que finalement, soutenir le PYD, ça permettait de se donner bonne conscience, puisque du coup, on soutenait quand même un acteur progressiste. Et puis on faisait un peu oublier qu'on soutenait la contre-révolution de Bachar al-Assad. Mais globalement, l'extrême droite, elle a été très cohérente. C'est-à-dire qu'elle a soutenu l'Iran, Bachar al-Assad. Alors pourquoi? À la fois par anti-impérialisme américano-sioniste, donc ça c'est pour la défense de l'Iran. Et puis elle a également soutenu Bachar al-Assad parce que c'est un nationaliste... qui est vu comme une espèce d'homme fort qui écrase, qui sait se faire respecter. Il y a aussi dans une partie de l'extrême droite une fascination pour un nationalisme arabe brutal et dictatorial. Hein, il faut bien le dire, et qui en plus avait l'avantage de se décrire, comme un défenseur face à la menace islamiste. Finalement rien de très étonnant de la part de l'extrême droite.
Ils veulent surtout, c'est un pouvoir fort et qu'en fait la région soit stable.
Alors oui, il y a effectivement dans une certaine gauche et dans l'extrême droite ce discours. Donc par exemple, Saïd Bouhamama avait soutenu plus ou moins ouvertement le régime de Bachar al-Assad en disant que face aux impérialismes états-uniens et israéliens, il fallait des états forts dans la région. Donc d'une certaine manière, donc il a voilà soutenu donc la contre-révolution de Bachar el-Assad au nom d'une espèce de nationalisme arabe et d'un anti-impérialisme un peu daté. Alors sur la question de la géopolitique, c'est sûr que le gros problème, c'est que en dehors du Rojava, tout le monde a eu une lecture purement géopolitique et pas la bonne en plus. C'est-à-dire que tout le monde a eu une lecture géopolitique en mode c'est l'impérialisme américano-sioniste qui, enfin tout le monde, je dis, hein, cette certaine gauche et l'extrême droite, qui essaye de déstabiliser des régimes anti-américano-sionistes. Donc là, je parle surtout de la Syrie, hein, parce que les autres, ils sont pas particulièrement anti-américano-sionistes. En fait, on peut dire que la gauche et l'extrême droite ont dit assez peu de choses en dehors de la Syrie. Parce que, bon, sinon... bon, il y a eu effectivement une partie de l'extrême droite quand même, proche notamment de Thierry Messin, qui s'est opposé aux frères à la mainmise croissante des frères musulmans et qui a soutenu la contre-révolution militaire en Égypte en 2013, le coup d'État hein, de juillet 2013 qui a vu Al-Sisi arriver au pouvoir, et Al-Sisi d'ailleurs est toujours au pouvoir aujourd'hui. Mais en dehors de la lutte contre les frères musulmans et finalement du soutien un retour au pouvoir de l'ancien régime, surtout de l'armée, hein. Ça s'est beaucoup focalisé quand même sur la Syrie. Et en Syrie, on a eu d'une part une lecture géopolitique complètement fausse, et d'autre part, le seul endroit où on a vu de la révolution, alors même qu'il y avait un soulèvement populaire incroyable en 2011-2012, en Syrie, c'est au Rojava, là où précisément il n'y avait pas de soulèvement révolutionnaire. Tout ce qu'il y a eu, c'est un parti qui, avec ses miliciens, qui sont souvent voilà, des membres du PKK, une partie qui sont arrivés en Syrie après 2011, qui ont pris un territoire en échange d'un accord de bons procédés avec le régime, du type « on récupère vos territoires, mais en échange on vous attaque pas et on participe pas à la révolution ». Ce qui évidemment a favorisé l'écrasement de l'insurrection syrienne. Même si aujourd'hui le régime syrien est un peu embêté d'avoir... le PYD qui gouverne une partie de son territoire, malgré tout, le régime était bien... Ça l'a vraiment arrangé en 2011 que le PYD prenne en charge ces régions, réprime l'opposition à Bachar el-Assad dans ces régions et instaure une entité administrative, disons, qui au moins n'est pas hostile directement au régime. Beaucoup de gauchistes ont vu la révolution à partir de 2014 et de Kobané. On a eu David Graeber qui a comparé ça à Barcelone 36-37. Bon, on a déjà consacré des émissions à ce sujet, ça n'a absolument rien à voir. Il y a eu, encore une fois, il y a eu quelques coopératives agricoles. On n'est pas dans la communisation, hein. C'est pas le communisme libertaire. Donc, il y a eu voilà, un fantasme complètement délirant sur le Rojava, et qui est lié à une... C'est une raison très simple, c'est au fait que la propagande du PKK avait de bonnes raisons de marcher dans l'extrême gauche, hein, parce que voilà, ça s'accommode de l'islamophobie d'une partie de l'extrême gauche, ça vend des concepts de Murray Bookchin, municipalisme libertaire, démocratie, féminisme, etc., etc. Donc ça vend du rêve, entre guillemets. Le PKK a beaucoup de relais en France, notamment, et donc il y a eu plein de présentations, etc., etc., mais qui n'étaient jamais basées sur quelque chose de concret ou sur des exemples. Donc, on a abouti à la situation actuelle qui est un petit peu délirante. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir l'autodétermination du peuple kurde et qu'on ne peut pas apporter un soutien critique au PYD contre l'invasion turque, notamment. Hein. Évidemment, il ne s'agit surtout pas de soutenir l'impérialisme turc, mais bon, voilà, il faut un regard plus critique et c'est malheureusement... Ce que l'extrême gauche n'a pas fait assez souvent, alors que en réalité, elle aurait dû analyser le PYD comme un acteur géopolitique. Qui défend ses intérêts. Ses intérêts, c'est quoi? C'est d'essayer de créer une espèce de proto-État à cheval entre la Syrie et la Turquie. C'est ça le projet du PKK. Et d'avoir un État bourgeois centralisé, un vaguement réformiste, qui gouverne cette région. C'est tout. Et là, il n'y a pas eu de lecture géopolitique et il y a eu plutôt malheureusement beaucoup de fantasmes.
Peut-être sur une question un peu plus atypique. Tout à l'heure, tu nous parlais de la place que prenait du coup le pétrole et l'économie de rente dans le capitalisme de la région. Et du coup, j'ai un peu envie de poser brutalement comme ça le sujet de l'écologie. Est-ce que du coup, on pourrait, ça serait intéressant en fait de faire des liens entre la problématique écologique et en même temps l'économie rentière du pétrole sur laquelle reposent ces économies. Est-ce que du coup, dans cette région, on retrouve des argumentaires subversifs qui iraient dans ce sens, ou est-ce que cette question, elle est complètement éludée? Enfin, quelle est la place de l'écologie du coup dans cette économie rentière basée sur le pétrole?
Alors, ce qui est clair, c'est que l'écologie est pas très développée dans cette région de manière générale. Le seul exemple vraiment d'un mouvement qui est pas vraiment écologiste, mais qui quand même l'est un petit peu, c'est le mouvement, les mouvements contre le gaz de schiste dans le sud du Sahara algérien. Là, il y a eu des vraies mobilisations assez importantes qui avaient quand même une dimension écologiste plus ou moins présente contre voilà le gaz de schiste, parce que bon voilà le gaz de schiste. C'est extrêmement polluant, ça a impacté les communautés là-bas, etc., etc. Voilà, il y a un mouvement donc écologiste quand même vraiment très faible. La dimension écologiste des révoltes est très très faible. Et c'est lié au fait que voilà, c'est aussi des économies qui sont complètement dépendantes de la rente. Et donc les gens, jusqu'à aujourd'hui, se contentent plutôt de demander une redistribution de la rente. Ils demandent entre guillemets leur part de la rente, et pas qu'elle soit appropriée par une toute petite minorité, mais il n'y a pas encore de volonté de dépassement de cette économie rentière, notamment du fait de ses conséquences écologiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette économie rentière, elle a des conséquences écologiques très néfastes, et que ça pourrait pousser à un mouvement écologiste, ou en tout cas les gens ont conscience des dégâts écologiques de cette économie rentière. Un exemple, l'Irak. Toute la région de Bassora, qui est à majorité chiite, qui est la région de l'Irak qui donne sur le golfe Persique, qui est la région où le Tigre et l'Euphrate, les deux grands fleuves historiques de la région, se rejoignent. C'est une région qui est extrêmement luxuriante écologiquement, historiquement. C'est d'ailleurs là que la civilisation, entre guillemets, est née. Donc voilà, il y avait une très grande richesse écologique dans cette région, mais simplement, en fait, à cause des barrages, à cause du dérèglement climatique, à cause également de la pollution liée aux installations pétrolières, il y a une pollution de l'eau assez importante, et il y a également une salinisation des eaux, parce que l'eau remonte, l'eau de la mer remonte, et d'un autre côté, les barrages font qu'il y a moins d'eau qui coule dans la direction opposé à la mer. Donc voilà, il y a des vrais problèmes écologiques, et les gens ont bien conscience dans cette région, notamment les agriculteurs, que ça pose un réel problème. Mais bon, malheureusement, il faut quand même savoir que les mouvements écologistes, c'est quand même assez récent, disons de manière massive, ça date des années 70 aux États-Unis, et voilà, c'est dans des pays qui sont déjà très riches et où la lutte pour la survie immédiate est quand même beaucoup moins importante que dans cette région, quoi.
Ok, et du coup, au-delà de la thématique écologiste, tu disais que beaucoup des révoltes réclament du coup une meilleure redistribution de la rente. Est-ce qu'on a quand même des groupes d'individus qui, dans ces conflits sociaux, affirment la nécessité d'abolir même du coup la rente? Enfin, j'imagine quelle est la place des anarchistes dans ces révoltes?
Alors, malheureusement, assez faible, assez anecdotique. Il y a extrêmement peu de gens qui iraient au-delà d'une espèce d'état socialiste, avec une large partie de l'économie aux mains de l'État et un secteur privé minimal. C'est-à-dire que la gauche de la gauche, dans cette région, mais bon, c'est aussi le cas en France, même si en France, il y a une ultra-gauche un petit peu plus importante quand même, mais la gauche de la gauche, c'est principalement les marxistes et les nationalistes arabes. C'est les seuls à gauche qui éventuellement peuvent arriver à se faire un peu entendre, et surtout les nationalistes arabes, à vrai dire. Par exemple, le troisième aux élections présidentielles de 2012 en Égypte était un Assyrien nostalgique, Donc un nationaliste arabe qui est pour une plus grande redistribution des richesses, la fin de la corruption, etc. etc. On n'est pas sorti de ce paradigme de manière massive, mais ça s'explique voilà, par les conditions socio-économiques de ces pays, qui est que eux, ce dont ils souffrent, ce n'est pas d'un capitalisme trop avancé, très développé, qui a envahi toute la société et qui fonctionne très bien, hein, certains diront trop bien, comme en France, aux États-Unis, etc. etc. Les gens souffrent d'un capitalisme sous-développé. Et donc, du coup, ils ont l'espoir que, sans corruption, avec de la justice sociale, de la redistribution, ils sont quand même attachés, hein, c'est pas non plus des néolibéraux. Au contraire, ils sont plutôt anti-néolibéraux. Ils sont pour un État redistributeur, etc., etc. Ils sont pour voilà, une sorte de compromis fordiste, comme on a eu en France dans les années 50-60, c'est-à-dire le plein emploi, des salaires relativement élevés, une partage de la valeur ajoutée relativement équitable entre capitalistes et travailleurs, même si ça ne veut pas dire grand-chose, relativement équitable, mais enfin, voilà. Et une démocratie assez importante. Voilà, et en France, ce stade-là des revendications a mis longtemps à être dépassé, au moins dans les années 50-60. Il a fallu attendre 68, l'explosion de 68. Mais on était dans des conditions socio-économiques, encore une fois, qui sont très très différentes. Donc, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de dépassement. C'est les limites objectives de ce mouvement. C'est à la fois sa force et ses limites. Sa force, c'est qu'il veut un renversement du capitalisme et du régime politique réellement existant, ce qui est quand même déjà pas mal, hein. Je veux dire, il ne veut pas simplement le changement d'un politicien. Il ne veut pas simplement quelques réformettes. C'est vraiment le renversement du capitalisme et de l'État réellement existant dans cette région depuis des décennies. C'est quand même des revendications qui sont fortes. Mais comme ces régions-là n'ont pas encore connu voilà, le capitalisme démocratique, bourgeois, pleinement développé, industrialisé, avec une consommation de masse, une consommation... abondante, avec des salaires élevés, relativement élevés, comme en Occident, effectivement, pour l'instant, ça reste leur horizon relativement indépassable. Mais c'est pas dit que, pour autant, hein, il faut pas non plus être dans une vision marxiste-téléologique, ça veut pas dire que, dans le cadre d'une révolution mondiale, les insurrections qui auraient lieu dans cette région se battraient pour un capitalisme démocratique classique. Au contraire, on peut penser que ça irait plus loin. Mais, bon, malgré tout, le fait qu'il s'agisse d'un capitalisme sous-développé avec un régime politique dont on peut légitimement penser, hein, qu'il est en partie responsable de cette situation, fait que, évidemment, l'attention est focalisée sur le sous-développement du capitalisme et sur ce régime politique, et pas sur le capitalisme en lui-même.
Ok, du coup, il y a un peu une idéalisation en fait, des pays du Nord qui maintient en fait, la hiérarchie sociale.
Je ne sais pas si on peut parler de... Oui, je pense qu'on peut parler effectivement d'une forme d'idéalisation, mais je pense que c'est une idéalisation pragmatique. Je ne pense pas que les gens se disent « tout serait merveilleux », mais les gens se disent « tout serait mieux quand même ». C'est vrai qu'effectivement... On ne peut pas nier qu'un capitalisme où il y a moins de corruption, où il n'y a pas d'économie duelle, où les gens ont quand même un peu l'opportunité d'avoir des emplois formels. Évidemment, la situation en Occident est en train de se dégrader assez rapidement. Effectivement, ça correspond de moins en moins. Disons que faute de mieux, c'est au moins ce type de régime-là qui est demandé. Il y a eu une époque dans les années 60-70 où il y avait un autre modèle qui était celui de l'Union soviétique et du socialisme, c'est-à-dire concrètement du capitalisme d'État. Donc il y a déjà eu effectivement un autre modèle, mais ce modèle de remplacement, qui d'ailleurs n'était pas du tout souhaitable, hein, évidemment, mais a disparu. Et là, ça me permet de revenir sur ma question de la modernisation de rattrapage, parce que les pays qui ont commencé des modernisations de rattrapage, ce sont tous des pays qui étaient sur ce modèle-là. C'est-à-dire qui ont étatisé une grande partie de l'économie dans les années 60-70 et qui ont tenté une modernisation de rattrapage. Qu'est-ce que c'est qu'une modernisation de rattrapage ? Très rapidement, c'est en gros, on crée des barrières douanières et à l'intérieur, on va essayer de développer à la fois des forces de production capitalistes industrielles, parce que on va aussi industrialiser l'agriculture, évidemment, on va aussi développer le secteur des services, mais voilà, on va essayer d'opérer un développement industriel du capitalisme pour que, à un moment, ce capitalisme soit capable de survivre sans protection douanière, voire même d'exporter. Hein. C'est ce qui a été réussi en partie par la Turquie, hein, qui a commencé une modernisation de rattrapage dans les années 20. Mais là, on ne parle pas, de la Turquie. Donc là, on parle de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak, principalement ces trois pays-là, qui sont donc des pays qui sont caractérisés par le fait que ce sont les militaires qui sont arrivés au pouvoir dans les années 50-60 suite à un coup d'État. Le coup d'État de Nasser en 52 en Égypte, le coup d'État en Irak des militaires en 58, et un coup d'État également en Syrie en 1963. Dans ces trois pays, il y a des partis nationalistes arabes qui cherchaient à imiter le modèle socialiste, qui se sont développés et qui ont tenté effectivement d'ériger des barrières douanières, de nationaliser et d'étatiser l'économie, de développer les forces productives par le biais de l'État, et donc ainsi d'offrir des emplois, des salaires, donc de créer un marché intérieur, donc ensuite d'essayer de créer une espèce de cercle vertueux keynésien où en gros on développe les forces productives, du coup on abaisse le coût des marchandises, du coup les gens peuvent acheter plus de marchandises et on peut leur offrir des meilleurs salaires puisqu'on fait des gains de productivité. Donc voilà, une espèce de cercle vertueux où la productivité augmente toujours, les salaires augmentent toujours, les profits augmentent toujours, qui est en gros le cercle vertueux qui est arrivé à quelques économies capitalistes à certains moments de leur existence et qui sont aujourd'hui les pays capitalistes dominants, le Japon, la France, les États-Unis, etc. Sauf que dans ces pays-là, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Alors un, c'était peut-être un peu tard pour le dire clairement, c'est plus compliqué de faire une modernisation de rattrapage dans les années 60-70 où il y a les débuts de l'automatisation, de la robotisation, que dans les années 1920 ou au 19e siècle, évidemment, c'est plus dur de rattraper, entre guillemets, son retard capitaliste. La deuxième raison, c'est le fait que, en même temps, ces régimes, pour s'attirer les faveurs de la paysannerie, ont développé des réformes agraires, et donc ont permis aux paysans d'acquérir des terres aux dépens des propriétaires terriens qui, auparavant, étaient au pouvoir dans ces pays. Et donc, évidemment, si on laisse les gens, disons, le choix entre aller à l'usine et cultiver son lopin de terre, ben, y a beaucoup de gens qui vont préférer cultiver leur lopin de terre ou aller un petit peu à l'usine. Donc il n'y a pas eu tellement cette création d'un marché intérieur, puisque beaucoup de gens vivaient en autosubsistance d'une petite économie locale, et donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de création d'un prolétariat ouvrier, comme dans certains pays occidentaux. Le prolétariat, entre guillemets, déraciné, il est né avec le néolibéralisme, quand ces réformes agraires ont été abrogées. Sauf que là, il n'y avait pas d'industrialisation, donc c'est des gens qui sont allés moisir dans les banlieues et dans des habitats précaires. Et c'est souvent ces prolétaires urbains, dont je parlais tout à l'heure, qui ont été le moteur de la révolution à Deraa en Syrie en 2011, en Égypte, en Tunisie, à Sidi Bouzid en 2011 également, en Irak depuis 2018, etc., etc. Donc, voilà, ces modernisations de rattrapage, elles ont échoué à créer un marché intérieur parce que, voilà, il n'y a pas eu de constitution d'un prolétariat ouvrier intégralement dépendant de son salaire pour la survie. Il y a eu un développement faible des forces productives. Et le problème, c'est que pour développer ces forces productives, il a fallu les acheter. Il fallait les acheter à l'Occident. Et en fait, ça a créé un endettement. Et en fait, ben, l'endettement est devenu trop lourd à un moment. Et donc, la modernisation n'avait pas été réussie. Et à un moment, il a fallu rembourser les dettes, et c'est à ce moment-là que, dans les années 70, tous les pays ont basculé dans le néolibéralisme pour rembourser leurs dettes, contraints par le FMI, et aussi parce que le modèle avait, semble-t-il, échoué. Et les élites qui avaient porté jusque-là ce projet de modernisation de rattrapage sur le mode soviétique se sont tournées plutôt vers un modèle de capitalisme de connivence, c'est-à-dire on a contrôlé l'économie pour faire une modernisation de rattrapage, ça n'a pas marché, donc maintenant, on va privatiser l'économie et s'en approprier les meilleurs morceaux pour s'enrichir et enrichir nos proches, nos clientèles. Et c'est ce qui a fait que pareil, pour prendre un exemple caricatural, le cousin de Bachar el-Assad, Rami Makhlouf, contrôlait en 2011 60% de l'économie syrienne à travers des sociétés. 60% quand même. Donc voilà, en fait, c'est capitalisme d'État. Et donc, ces capitalismes d'État, d'une certaine manière, ont été un peu bradés parce que, d'une certaine manière, ils avaient échoué, ils avaient fait leur temps, un petit peu comme en Russie dans les années 90, avec la montée des fameux oligarques.
Ok, du coup, en fait, on pourrait parler d'une mise au pas de la production et d'une intégration dans la hiérarchie capitaliste de cette région après la colonisation, quoi. Enfin, non, en continuité de la colonisation, mais à travers un néocolonialisme.
Oui, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après les indépendances de ces pays, soit ils ont été directement intégrés au capitalisme mondial. Par exemple, le Liban a été, a été intégré de manière spectaculaire dans les années 60-70, où il est devenu la Suisse du Proche-Orient, et il s'occupait d'une grande partie du commerce et des flux financiers entre, d'une part, le Golfe et d'autres pays alentours, et d'autre part, l'Occident. Donc ça, c'était un cas d'intégration très forte qui pose énormément de problèmes aujourd'hui au Liban. Et puis, d'autres pays ont été intégrés plutôt par la rente pétrolière, puisque au début, la rente pétrolière, c'était des compagnies occidentales hein, qui l'ont générée. Ils donnaient une petite partie de l'argent du pétrole aux autres États, et puis après, petit à petit, une grande partie du pétrole a été nationalisée, y compris en Arabie Saoudite, qui est pourtant loin d'être un pays socialiste. Donc voilà, ils ont été intégrés principalement par le biais de la rente, et puis aussi, l'envers de la rente, c'est la dépendance. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont extrêmement dépendants des importations et extérieures. C'est-à-dire que globalement, ils n'exportent que des hydrocarbures, et ils importent énormément de biens de consommation. Ce qui fait que, évidemment, ça creuse leur déficit commercial et leur endettement. Et qui dit endettement, dit à un moment, il faut demander l'argent du FMI. Et donc, le FMI impose de nouvelles mesures néolibérales, etc. etc. Ce qui fait que c'est des économies aujourd'hui qui sont complètement dépendantes des prêteurs internationaux, le Liban, l'Égypte, etc. etc. sont intégralement dépendants du FMI. Ce qui fait que, voilà, il y a une aggravation constante de l'austérité et du néolibéralisme dans ces pays, et tous les acquis sociaux, entre guillemets, de la période de modernisation, de rattrapage socialiste arabe, entre guillemets, des années 60-70, ont été progressivement détricotés et pour ne laisser que le capitalisme néolibéral le plus brutal à l'heure actuelle. Et donc, finalement, voilà, comme tu dis, finalement, tous les pays de la région, au plus tard dans les années 90, ont été intégrés au capitalisme mondial. Ce qui fait que, du coup, ils ont, au-delà des différences entre les soi-disant républiques, qui sont en réalité souvent des dictatures militaires, et des monarchies, au-delà des clivages entre ceux qui se revendiquent du socialisme arabe et d'autres qui se revendiquent de monarchie de droit divin ou de théocratie comme en Iran, finalement, l'économie politique entre guillemets de ces pays est à peu près la même, quoi.
Du coup, ça me donne envie de revenir sur ce que tu disais un peu avant sur le fait de qualifier ou non Daesh de fasciste. Et ça pourrait peut-être aussi être un moyen d'aborder un petit peu la problématique de la confession, de la religion dans cette région du monde et son importance, enfin quelle place ça prend et quel enjeu ça recouvre. Du coup, pourquoi est-ce qu'on peut pas qualifier Daesh de fasciste ?
Alors, donc il y a deux questions en une qui sont assez compliquées. Donc la question de est-ce que Daesh peut être qualifié de fasciste ? Moi, j'aurais tendance à considérer que le fascisme, paradoxalement, ne peut naître que dans une société où il y a déjà une participation massive des masses à la politique. Donc c'est déjà des sociétés qui ont une forme de démocratie relativement importante, puisque la particularité du fascisme, contrairement aux dictatures militaires, aux guérillas d'extrême droite, etc., etc., c'est qu'elles exigent, pour arriver au pouvoir, un soutien populaire massif. Je veux dire, le nazisme, pour arriver au pouvoir, il a dû faire 30 ou 40% aux élections. Le fascisme italien a dû, avant d'abord, jouir d'un soutien très large de la population. parce que ce sont des sociétés où l'extrême droite ne pouvait pas arriver au pouvoir autrement. Il y a eu des tentatives, le putsch de Cap en 1920, un échec, le putsch de Hitler de la Brasserie à Munich, un autre échec en 1923. Et en Italie, on a dit que Mussolini était arrivé au pouvoir avec la marche sur Rome en 1922, c'est faux. Il a été nommé Premier ministre parce que voilà, la bourgeoisie ne voyait pas trop d'autres solutions pour rétablir l'ordre dans le pays et remettre en marche l'économie et écraser une bonne fois pour toutes le mouvement ouvrier. Donc c'est déjà, le fascisme, il ne peut naître, à mon sens, que dans des sociétés où il y a besoin d'un soutien populaire massif pour un projet d'extrême droite, où il y a une forte politisation des masses, où la démocratie est quand même suffisamment implantée pour qu'il y ait au moins besoin de passer par elle pour l'abolir, entre guillemets, de passer par les élections pour abolir les élections, l'état de droit, etc. etc. Donc Daesh n'est pas du tout né comme ça. Daesh, c'est pas un parti de masse qui s'est construit avec un parti, des milices, une base électorale forte. Daesh s'est construit comme avant tout un ensemble de milices islamiques radicales qui, au bout d'un moment, se sont unifiées sous le commandement d'al-Baghdadi et qui ont créé l'État islamique au Levant et en Irak. Et ensuite, bon, qui ont proclamé le califat. Mais pour moi, Daesh, alors comment le qualifier si on ne le qualifie pas de fasciste? C'est sûr que c'est un mouvement d'extrême droite. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un mouvement de rébellion armée d'extrême droite, religieuse. Comme par exemple, pour prendre des exemples européens, pour pas que ça paraisse uniquement un phénomène de là-bas, entre guillemets, il y a eu également le cas des carlistes. En Espagne au 19e et au 20e siècle, donc qui était une espèce de guérilla royaliste d'extrême droite de Navarre qui soutenait la restauration d'une branche de la monarchie espagnole et qui donc pour ça s'était armé et avait constitué des milices et un semblant d'organisation politique. Donc moi je rapprocherais plutôt
royaliste que fasciste.
Alors royaliste, bah, d'une certaine mesure, enfin califiste entre guillemets, puisque c'est le califat qui s'agit. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que voilà, c'est un mouvement armé en faveur d'une restauration, enfin fantasmée, parce qu'en réalité, c'est de l'instauration qu'il s'agit, de l'instauration d'un État islamique. Mais voilà, c'est vraiment plus une guérilla armée. Que voilà un parti fasciste voilà. Alors après pour la question de la religion, parce qu'évidemment on pourrait se dire mais pourquoi est-ce que ce projet réactionnaire, pourquoi est-ce que les projets réactionnaires dans ces pays-là se formulent quasi systématiquement de manière religieuse depuis les années 70? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, il faut bien avoir conscience que l'idée de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir à ce qu'il y avait immédiatement avant les républiques, soi-disant, à l'heure actuelle, séduit personne. Personne n'a envie de retourner à la monarchie en Égypte, au régime du Shah en Iran. Et d'ailleurs, souvent, l'islamisme a prospéré à partir de ce moment-là. Donc, pourquoi est-ce que l'islamisme est si fort là-bas? C'est pour une raison relativement simple, c'est que l'islamisme, c'est la seule forme d'idéologie, d'opposition qui est capable de rallier une partie suffisamment importante de la population sur des bases qui ne sont pas celles d'une remise en cause du pouvoir politique de l'État sur la société et des classes dominantes sur le prolétariat. C'est-à-dire que l'islamisme, ça permet d'offrir un modèle politique alternatif sans avoir à altérer la domination de classe et la domination de l'État. Simplement, on change le vernis, c'est-à-dire que on passe d'État soi-disant laïque et nationaliste arabe, qui était au pouvoir, comme je l'ai dit, en Égypte, en Syrie, etc., etc., à des États théocratiques ou basés sur la charia, etc., etc. Donc finalement, on substitue la nation comme entité de référence fétichisée, on lui substitue l'Oumma, la communauté musulmane. Et on propose comme solution à tous les problèmes l'islam. L'islam politique, c'est-à-dire le fait que l'islam devient la base de la politique, de la constitution, etc. etc. Et donc, l'islam politique va se développer fortement à partir des années 70, surtout, un peu déjà dans les années 20, avec la fondation des Frères musulmans en 1928, un peu dans les années 50 aussi, mais surtout à partir des années 70, face à l'échec justement des régimes nationalistes arabes et des modernisations de rattrapage. Et donc, face à l'échec de ce projet nationaliste, donc basé sur la référence à la nation, et sur un soi-disant laïcisme, et sur des références qui sont pas très religieuses, hein, la référence à l'Union soviétique, c'est pas très religieux, hein, puisque officiellement, l'URSS était athée. Face à l'échec de ce modèle, les islamistes vont arriver avec une solution toute prête, qui a l'avantage de ne pas promettre de transformation économique et sociale. Et d'une certaine manière, la force de l'islamisme, c'est de ne rien promettre sur ce plan. Parce que de toute façon, ils ne peuvent rien promettre puisqu'ils ne changeront pas la donne. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si dans les années 70, on avait fait une croix sur le fait que cette région-là pourrait un jour sortir de ce sous-développement capitaliste. Et donc, le seul projet qui est capable, politique, qui est capable d'une adhésion relativement large sans proposer pour autant un projet de modernisation capitaliste, ou alors, au contraire, un projet révolutionnaire de renversement de la classe, de la classe dominante, etc., c'est l'islamisme. Donc, l'islamisme, il est le produit de l'échec des modernisations de rattrapage nationaliste arabe, et il est également le projet de l'écrasement de la gauche. Ça, c'est aussi un élément important, c'est que le mouvement islamiste dans les années 70 va bénéficier du soutien très important des régimes en place, même lorsque c'est des régimes nationalistes. Les Frères musulmans en Égypte vont être soutenus massivement par Sadat, qui arrive au pouvoir en 1970. Il va y avoir également ce genre de phénomène ailleurs, au Soudan par exemple, ou un petit peu en Tunisie. Les islamistes vont être utilisés systématiquement par les pouvoirs en place comme un rempart contre la gauche, et en même temps pour détourner l'opinion d'une volonté de transformation radicale dans un sens de gauche. Alors évidemment pas l'abolition du capitalisme et de l'État, ça aurait été un petit peu trop beau, mais disons au moins d'une remise en cause de la société de classe. Au contraire, donc au début, il y a eu une tentative par tous ces régimes en place d'instrumentaliser l'islamisme pour se maintenir au pouvoir et écraser leur gauche. Parce que dans les années 70, la gauche était assez forte dans cette région-là. Et comme une partie des nationalistes arabes commençait à se tourner vers le néolibéralisme et à se détourner de la voie du socialisme arabe, entre guillemets, la gauche leur faisait concurrence, puisque, entre guillemets, ils disaient « ben non, il faut continuer sur cette voie ». Donc l'islamisme, l'islam politique a eu le vent en poupe dans ces années-là. Et puis à un moment, ils ont fini par s'émanciper, entre guillemets, de leur maître. Donc ça a été les Frères musulmans, par exemple, qui ont tenté une insurrection en 82 en Syrie, qui a fait entre 10 000 et 40 000 morts. Mais dans d'autres pays, ils ont été réprimés, comme en Égypte, quand ils sont devenus trop dangereux politiquement. Parce qu'au début, c'était une force pour pacifier socialement. Mais ça ne devait pas être une force qui pourrait prendre le pouvoir. Et donc, finalement, au bout d'un moment, ces forces ont voulu prendre le pouvoir, et donc elles ont été réprimées en Syrie en 82, en Égypte à partir des années 80. C'est même les islamistes qui ont assassiné Sadat en 80, celui qui avait favorisé leur ascension. Et au début de la libéralisation politique en Algérie dans les années 80, les islamistes étaient plutôt bien vus par rapport à la gauche, qui voulait des transformations profondes du régime politique et social en Algérie. Et l'avantage avec les islamistes, c'est qu'on pensait qu'ils ne modifieraient pas le statu quo et qu'ils se contenteraient finalement d'une transformation culturelle de la société, avec plus de références à la charia, etc., etc. Sauf qu'à un moment, les islamistes ont voulu s'émanciper des militaires, et donc il y a eu le coup d'État de 92 qui a mis fin au processus électoral qui allait donner la victoire aux islamistes et leur permettre d'arriver au pouvoir. Donc d'une certaine manière, les islamistes, d'abord, ont été favorisés par les régimes nationalistes arabes contre la gauche et les mouvements populaires. Et ensuite, une fois qu'ils ont, que sont émancipés, ils ont été écrasés. Mais évidemment, les mouvements islamistes ils peuvent être écrasés à un moment ou à un autre, mais ils renaissent parce qu'ils ont des puissants soutiens. Tous les pays du Golfe sont des soutiens, même si maintenant les pays du Golfe ont aussi peur depuis Al-Qaïda que les islamistes se retournent contre eux. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite, Al-Qaïda, ça a été le premier exemple d'un mouvement islamiste qui se retourne contre une puissance elle-même islamiste, l'Arabie Saoudite en l'occurrence. Les islamistes ont été, jusqu'en 1990, les frères musulmans, leur principal parrain, principal soutien, ça a été l'Arabie Saoudite, pour lutter contre le nationalisme arabe et contre la gauche, à l'échelle régionale. Donc c'était vraiment une force contre-révolutionnaire hein, depuis le début. Mais après, voilà, l'islamisme, finalement, la créature a échappé à son maître, et Al-Qaïda s'est rebellé aussi contre l'Arabie Saoudite.
Ils ont fait scission.
Exactement, ils ont fait scission, et d'ailleurs, même, il y a une scission au sein des frères musulmans des origines. Il n'y avait pas de séparation entre les radicaux et les quiétistes, et les modérés, entre guillemets, comme aujourd'hui. Par exemple, dans les années 50, les frères musulmans auraient réuni Ben Laden et Mohamed Morsi dans le même parti. Sauf que, ensuite, il y a eu une division entre ceux qui disaient qu'il fallait arriver au pouvoir par une stratégie de pénétration lente des sociétés avec le soutien du régime en place, parce que le régime en place, il est... L'islamisation, à partir des années 80, a été un moyen pour les régimes nationalistes arabes et tous les régimes de manière générale, de, comme ils étaient de plus en plus illégitimes et de plus en plus impopulaires, eh ben, d'offrir une espèce d'idéologie de substitution par rapport à l'idée de modernisation de rattrapage sur un modèle du nationalisme arabe et du socialisme arabe. Et donc l'idée des modérés, des frères musulmans, entre guillemets, c'est on va profiter, on va faire ce que l'État nous demande, et une fois qu'on sera suffisamment fort, qu'on aura l'hégémonie culturelle, entre guillemets, eh ben là, on tentera de prendre le pouvoir. Alors qu'au contraire, la branche plus radicale de Qutb à la base, et puis qui ensuite a donné naissance à Al-Qaïda, Daesh et tout ça, là c'est plus un mouvement qui dit non, il faut, il faut une rébellion armée et prendre le pouvoir par la force. Voilà, bon, qui est toujours un peu le dilemme de l'extrême droite, hein, ces deux forces d'extrême droite. Il y a toujours une extrême droite qui préfère prendre le pouvoir par les urnes, comme en Europe, et une qui préfère les putschs et les rébellions armées.
Effectivement, c'est ce que j'allais dire. On voit bien qu'en fait, cette analyse, elle permet de montrer qu'on est vraiment sur les mêmes enjeux que l'extrême droite chez nous, on va dire, avec des enjeux vraiment similaires, mais avec d'autres référents culturels, quoi. Effectivement, nous, ici, on va moins mobiliser la religion, et encore, il y en a qui le font, mais peu importe ce que l'extrême droite va mobiliser comme référent culturel, que ça soit même du complotisme ou même des références un peu ésotériques, etc. En fait, il s'agit toujours de faire oublier la hiérarchie sociale pour pas s'y attaquer.
Oui, ouais, exactement. Il y a beaucoup de similarités. Effectivement, en fait, de toute façon, des référents sur lesquels on peut baser une hégémonie politique, il n'y en a pas tant que ça. De manière générale, en Occident, c'est principalement la religion dans certains pays, mais dans d'autres, ça marche pas trop. Ou sinon, il y a la nation, ou des entités plus, des mini-nations, ou des régions, etc., etc. Et voilà, c'est principalement ça. Ce qui fait que l'extrême droite en France, son mot d'ordre, c'est la régénération de la France. Et qui promet, là, je reprends vraiment l'analyse qu'on avait développée dans l'émission qu'on avait consacrée au fascisme, mais... Le fascisme, ce qu'il promet, c'est un projet de dépassement des contradictions socio-économiques, politiques, etc., etc. Donc contradictions entendues à la fois comme des choses négatives qui impactent la vie des gens, et en même temps comme la lutte, les luttes de classe, de genre, etc., etc. À la fois par un projet... De fusion de la nation. Ça, c'est entre guillemets le versant positif. Mais en fait, l'envers négatif, évidemment, c'est l'élimination de tout ce qui ferait obstacle à cette unité de la nation. Et donc, on va éliminer les racisés, les migrants, etc., etc. On peut dire que d'une certaine manière, même si c'est pas sous une forme fasciste, Encore que, bon, pour les frères musulmans, le fascisme, bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont pas de milices armées. Donc, bon, peu importe, c'est un vaste débat. Je pense que déjà avec les frères musulmans, la question du fascisme peut se poser un petit peu plus. Mais bon, je suis encore un petit peu sceptique là-dessus. Enfin, disons que les frères musulmans, qui est la principale force de l'islam politique, hein, ce qu'ils proposent comme projet, c'est le dépassement des contradictions de ce capitalisme sous-développé et de ses régimes, patrimoniaux et néo-patrimoniaux. Donc patrimoniaux, c'est quand en gros toute la société et l'État est dans les mains d'une petite coterie autour du président, donc c'est le cas en Syrie, et néo-patrimoniaux, c'est quand il y a au moins une indépendance formelle de l'armée, etc., vis-à-vis du président. Donc, finalement, ce que propose l'islam politique, c'est finalement de dépasser les contradictions socio-économiques et politiques de cette région par finalement une unité islamique, une adhésion à un modèle unique et totalitaire, diraient certains, de l'islam, et finalement que la charia sera la réponse à tous les problèmes sociaux, économiques, etc. Donc ça, pour le versant entre guillemets positif, c'est l'islam et la solution, hein, c'est le slogan des frères musulmans depuis leur création en 1928. Et le versant négatif, c'est que tout ce qui n'est pas islamique doit disparaître. Donc l'homosexualité, l'émancipation des femmes, mais aussi le mouvement ouvrier, etc. Et donc, c'est un modèle qui a pu séduire pour une raison relativement simple, c'est que l'autre modèle possible, celui plus de gauche, entre guillemets, du nationalisme arabe, avait montré un visage particulièrement négatif. C'est-à-dire que la modernisation de rattrapage n'avait pas été réussie, et puis c'était des dictatures brutales. Donc, d'une certaine manière, dans une grande partie de cette région, tout ce qui est associé à la gauche, au socialisme, à la laïcité, au modèle occidental, etc., ce que ça leur rappelle, c'est d'une part ces régimes nationalistes arabes dictatoriaux, et d'autre part l'impérialisme occidental, qui les a d'abord colonisés, puis qui a multiplié les interventions qui n'ont pas vraiment été bénéfiques à la population de cette région. Donc le modèle alternatif, voilà. C'est tout simplement la référence islamique, d'autant plus que, étant donné qu'aujourd'hui, dans le système monde capitaliste, cette région-là est plutôt une périphérie dominée, par contre, le référent islamique permet de se remémorer un temps où, là, c'était pas une périphérie dominée, mais au contraire, Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le référent islamique, c'est à la fois la solution fantasmée au problème concret, en croyant que juste en islamisant un peu la société, en moralisant le capitalisme, hein, on est encore dans un projet de moralisation du capitalisme, hein, puisque voilà, les capitalistes seront vertueux.
C'est encore une histoire de Sarkozy,
mais
ça.
Oui, la solution pour les frères musulmans, c'est on fait un modèle néolibéral, mais avec de la charité privée et d'autre part la vertu, et donc pas de corruption, etc. Et donc, c'est un projet qui est au moins susceptible de rassembler l'adhésion d'un certain nombre de gens. Et je pense que par rapport à l'adhésion des gens à ce modèle, il faut se méfier. C'est-à-dire que oui, les sociétés de ces régions se sont profondément réislamisées à partir des années 70-80, notamment du fait de l'échec des dictatures arabes, mais aussi du fait que tous les régimes de cette région ont joué la carte de l'islamisation pour pacifier la société. Même Saddam Hussein l'a fait dans les années 90, après sa défaite lors de la guerre du Koweït. Donc, ça a été un instrument de pacification sociale. Effectivement, il y a un retour beaucoup plus important du référent religieux aujourd'hui dans ces sociétés. Pour autant, finalement, les islamistes, il y a une adhésion finalement assez faible à l'islam politique. Voilà, par exemple, si on prend le cas des élections égyptiennes de 2012, la gauche, toutes tendances confondues, nationalistes arabes, socialistes, laïcs, libéraux même, hein, bon, on met beaucoup de monde, hein, on est bien d'accord, Enfin, globalement, ceux qui ne sont pas islamistes ont rassemblé plus de suffrages que les candidats de l'ancien régime et les candidats islamistes réunis. Alors qu'on parle de l'Égypte, hein, donc c'est pas non plus le pays le moins islamisé du monde. Donc, en fait, l'islam politique arrive à avoir un certain poids parce que, en fait, il dispose de nombreux militants, un financement énorme, que ce soit par des milliardaires du Golfe, par des pays, ça dépend. Hein. Les frères musulmans ont été soutenus financièrement, massivement par les États-Unis et l'Arabie Saoudite jusqu'en 1990. En 90, ils se sont opposés à la guerre du Golfe, à l'intervention américaine contre Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Donc à partir de ce moment-là, les frères musulmans se sont tournés plutôt vers le Qatar, qui est aujourd'hui le principal financeur. Donc c'est des forces politiques qui arrivent à gagner des élections, comme en Tunisie ou en Égypte, parce que en fait, en dehors des forces de l'ancien régime, ce sont les seuls qui ont énormément d'argent, qui ont déjà une structure politique, qui ont déjà de nombreux militants. La gauche a été réprimée très fortement partout. La seule organisation de gauche à peu près puissante dans cette région, c'est l'UGTT en Tunisie, où il y a une vraie base qui est sur des bases de lutte de classe, même si la direction, elle, était complètement inféodée à l'ancien régime. Je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer. Oui, certes, il y a une profonde importance du référent religieux dans ces sociétés, et oui, faute de mieux, le projet d'islam politique peut entraîner l'adhésion de certaines populations désespérées. Hein. C'est comme ça que Daesh a capter une certaine sympathie des populations sunnites en Irak, parce que les populations sunnites étaient dans un état de désespoir, elles avaient été réprimées dans leurs différentes manifestations par le pouvoir central de Bagdad, qui était plutôt aux mains des fondamentalistes chiites, qui les avaient bombardés et réprimés dans le sang. Voilà, faute de mieux, les gens peuvent se tourner vers les islamistes, mais sinon, il ne faut pas non plus exagérer le poids, enfin l'adhésion des gens à l'islam politique. S'il y avait d'autres offres politiques, entre guillemets, plus à gauche, plus laïques, etc., les gens ne la rejetteraient pas forcément.
Ok. Eh ben, très intéressant. Je pense qu'on s'approche de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y aurait un sujet important qu'on n'aurait pas assez développé ?
Bah, je pense qu'on peut simplement terminer sur un espèce de bilan général de ces soulèvements. Ce qu'on peut dire, c'est que ces soulèvements, ils ont été créés par des conditions socio-économiques qui étaient devenues intolérables pour une partie importante de la population, du fait du sous-développement capitaliste et de régimes politiques particulièrement oppressifs et corrompus, et ce, encore plus dans un contexte de crise économique mondiale. Ces conditions, elles sont encore plus aggravées aujourd'hui, et donc, même dans des pays où la contre-révolution a triomphé, elle a triomphé à peu près partout, en Tunisie, le pouvoir est partagé entre les membres de l'ancien régime et les islamistes de Ennahda, donc les frères musulmans, qui sont aussi une force contre-révolutionnaire d'une certaine manière. La contre-révolution a triomphé en Égypte à partir de 2013. La contre-révolution a triomphé en Syrie, avec la reprise quasi totale du territoire par Bachar al-Assad. La contre-révolution a triomphé en Iran, très rapidement, en une semaine c'était plié, très récemment. En Irak, le soulèvement est encore en cours, au Liban aussi, au Soudan, la révolution a théoriquement gagné, mais rien n'est joué. Hein, Mais ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que comme les conditions socio-économiques et politiques de ces soulèvements sont encore plus accentuées qu'en 2011, eh bien, on peut s'attendre qu'à une multiplication de ces soulèvements au cours des prochaines années, peut-être à une radicalisation également de ces soulèvements au cours des prochaines années, avec peut-être un dépassement encore plus important des oppositions confessionnelles. Hein. Déjà en 2011, le soulèvement de Syrie était multiconfessionnel, aujourd'hui au Liban c'est multiconfessionnel, avec peut-être également une radicalisation du prolétariat et de son rôle dans ces mouvements. parce que la situation socio-économique sera peut-être telle que la classe moyenne et le prolétariat urbain auront peut-être des intérêts qui seront un petit peu plus divergents. Donc, c'est pas finalement étonnant qu'on ait eu des nouveaux soulèvements en 2018-2019, mais je pense qu'on va même assister à des nouveaux soulèvements dans des pays qui ont déjà connu des soulèvements au cours des prochaines années, en Égypte, en Tunisie, etc., etc. Parce que la situation qui a donné lieu au soulèvement de 2011 sont encore plus prégnantes aujourd'hui. Pour la question de quand est-ce que ces mouvements de rébellion arriveront à dépasser leurs forces et leurs limites, c'est-à-dire l'opposition au capitalisme réellement existant et à l'État réellement existant dans ces pays, pour s'attaquer directement au capitalisme et à l'État, bon, moi j'aurais tendance à penser que ça ne pourra se faire que dans le cadre d'une révolution mondiale et qu'en attendant, ce sera principalement ça l'objectif de ces mouvements, abattre le type de capitalisme et le type d'État qui existe dans cette région.
Ok, bah, très bien, ça me semble être une très bonne conclusion, malheureusement pas forcément des plus joyeuses, hein, même si on espère tous que cette révolution arrivera.
Bah, après, pour donner des choses positives, il y a quand même eu, voilà, on peut quand même noter que dans une région qu'on vouait au conflit interethnique et interconfessionnel, il y a quand même eu une nouveauté au Liban, là très récemment, le mouvement de 2019, pour la première fois, toutes les confessions participent à une rébellion contre le système confessionnel lui-même, alors qu'avant, ce système confessionnel qui existe au Liban, où en gros, le nombre de députés, le poste de président, de premier ministre et de chef du parlement sont fixés en fonction non pas d'un suffrage universel strict, mais d'un suffrage, mais d'une répartition confessionnelle. Le président est toujours maronite, le premier ministre est toujours sunnite, le chef du parlement est toujours chiite, tant de députés pour les maronites, tant de députés pour les chiites, tant de députés pour les sunnites, et toute la société fonctionne exclusivement comme ça. J'invite les auditeurs et les auditrices à écouter notre émission sur le Liban avec Joé Ayoub sur ce sujet. Mais pour la première fois, voilà, il y a au Liban un dépassement des oppositions confessionnelles, comme il y avait eu en Syrie en 2011, aussi en Égypte en 2011. Donc au moins là-dessus, il y a des éléments positifs. Par contre, et là, on n'en sortira pas, l'unité du prolétariat et des classes moyennes, évidemment, peut apparaître comme quelque chose de positif pour l'objectif limité de renversement de l'État et du capitalisme réellement existant dans ces pays. Mais en même temps, il est inévitable qu'à un moment, doive se produire une rupture de l'interclassisme. Et la question, c'est est-ce que ça se fera au profit des classes moyennes comme en Égypte en 2013, où le prolétariat a été trahi et abandonné, ou est-ce que ça se fera au profit du prolétariat? Et du coup, là, on rentre vraiment dans une phase clairement révolutionnaire, puisque si le prolétariat s'oppose à la fois aux classes moyennes et aux capitalistes et au régime, là, effectivement, on entre dans quelque chose de plus sérieux. Pour l'instant, on n'a pas encore eu trop le cas dans cette région, mais ça ne saurait tarder.
Encore faut-il qu'il s'oppose dans une perspective d'abolition de sa propre condition.
Oui.
Parce qu'on pourrait aussi imaginer...
Oui, bien sûr. Effectivement. Mais bon, là-dessus, on est encore dans des perspectives lointaines. Peut-être pour finir, on peut recommander quelques lectures. Moi, je recommanderais particulièrement...
Tout à fait. Qu'est-ce que tu as lu pour faire cette émission? C'est intéressant.
Alors du coup, je conseille vraiment les articles du site Des Nouvelles du Front. Il y a différents articles très intéressants là-dessus, notamment les notes sur l'Iran, etc., etc. Il y a également une petite partie de Théorie communiste numéro 24 sur les soulèvements arabes. Il y a le grand livre de Théorie communiste sur le Moyen-Orient 1945-2002. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent approfondir, parce que c'est quand même sacrément mastoc. Et après, sinon, pour s'informer un petit peu sur le sujet, on peut lire les livres de Gilbert Achkar, mais en ayant bien conscience qu'il s'agit d'une perspective vraiment social-démocrate. Donc il y a des analyses intéressantes, mais bon, il y a beaucoup de limites quand même, hein, politiques et théoriques. Et sinon, après, sur la Syrie, bah, Burning Country, vraiment une référence essentielle. Et puis, on invite vraiment les auditeurs et les auditrices à écouter les émissions qu'on a faites sur Sortir du capitalisme, notamment sur la Syrie et sur le Liban, qui sont quand même voilà, assez complètes sur le sujet.
Ok, bah très bien, je vais te souhaiter une bonne soirée, te remercier chaleureusement du coup pour cette émission, c'était vraiment super intéressant.
Et bah merci à toi, bah effectivement j'espère qu'on n'aura pas perdu les auditeurs et les auditrices dans toutes les complexités de ces questions, mais bon je pense qu'au moins on aura fourni un panorama assez large. Voilà, des principales problématiques et aussi de ce qui se passe dans plusieurs pays, même si évidemment on n'a pas pu aborder tous les pays, ça aurait été un peu fastidieux, surtout qu'il y a beaucoup quand même de caractères communs, quoi.
D'ailleurs, c'est vrai que je me permets de rajouter comme source, il y a dans ma vidéo d'Orla pas mal de sujets qui se recoupent avec tout ce qu'on vient d'aborder aussi.
Oui, bien sûr. En plus, il me semble qu'elle elle s'appuyait aussi sur des analyses, il me semble, qui étaient dans des nouvelles du front. Donc,
oui.
Effectivement, c'est...
Tout à fait.
C'était effectivement très, très intéressant, ouais.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.